8h30, ben pile. Puis juste avant d'aller rejoindre Marco D'Amico, je vous rappelle, aujourd'hui, il annonce une tempête. Hein. Pour l'instant, parce que je vais parler pour la région de Montréal.
Une tempête de pluie, par exemple.
Tempête de verglas, même. Ouais. Ouais. Pas une tempête de neige, une tempête de verglas.
Ça, c'est de l'eau qui glace.
C'est exact, Gilbert. Pour l'instant, ça se passe quand même bien. Mais soyez prudents sur
Marco,
les routes si vous avez
on,
à
baby.
Vous déplacer. Vous l'avez entendu rire à l'autre bout du fil. Marco D'Amico, salut!
Bon, ça va, Marco?
Le météorologiste qui est Gilbert Delorme.
Yes, sir, baby.
Il a tous les chapeaux. Il est chirurgien, météorologiste, docteur. Homme à tout faire. Et là, même pris aujourd'hui, mannequin de bobette. Ça aussi, ça s'en vient pour Gilbert. Avec ses belles bobettes.
J'aimerais ça, hein?
J'aimerais ça. Tu vois bien ça. C'est très bon. OK, Marco, question pour toi. Hier, on a vu un effort, honnêtement, puis ça, c'est, je vais pas enlever de crédit aux Canadiens, là. Mais les Maple Leafs, c'était nul. Nul, 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 nul. C'était pitoyable. Aucun effort, aucun engagement, aucun rien. Tout ça alors que tu te bats quand même contre un rival direct dans une rivalité quand même assez animée au cours des dernières décennies. J'étais vraiment impressionné à quel point les Maple Leafs n'étaient pas engagés. C'est quoi la suite pour Toronto si on regarde le long terme?
Mais selon ce que je me fais dire par rapport à Toronto, c'est assez simple. Ils ne veulent pas reconstruire et ne peuvent pas reconstruire. Mm-hmm. On verra pour cette année. Leur premier choix, pour l'instant, appartient aux Bruins de Boston grâce à la transaction de Brandon Carlo. Mm-hmm. La seule façon qu'ils vont être capables de le récupérer, c'est si leur choix tombe dans les cinq premiers choix de la prochaine QV de 2026.
Il est protégé top 5, c'est ça?
Il est protégé top 5.
Okay.
Mais aussi, leur premier choix de 2027 appartient aux Flyers. Donc, s'ils ont leur premier choix cette année, OK, c'est good. Mais après ça, les deux autres premiers choix, là, c'est terminé. Mm. Ça appartient à Boston et aux Flyers et il n'y a plus rien à se dire. Donc, une reconstruction doit se passer, ou au moins un reset doit se passer via transaction. Et je pense que c'est ça qu'on attend cet été du côté de Bradtree Living. On me dit que dans son cas, il devrait être safe et épargné de n'importe quel licenciement cet été.
Ah oui, hein?
Rubé, on verra bien. Mais Tree Living, ce que je me fais dire, c'est que sauf s'il y a une dégringolade totale du club, il devrait être encore ici pour au moins l'ouverture de la saison.
Craig Berube, lui, mettons, là. On parle
Berube, de... Berube, c'est probablement un dead man walking en ce moment, là, en termes de choses. Je pense que tu peux pas, à ce stade-ci, ça sert plus à rien de faire un changement d'entraîneur, mais cet été, je m'attends à ce qu'il y ait un changement derrière là.
Parce que regarde les gars, la façon qu'ils ont sorti hier, autres, tu as parlé tout à l'heure, là, ça c'est on
flat,
le coach,
flat,
là.
Flat. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça entache la réputation de Craig Berube comme entraîneur-chef?
Oui et non, ça dépend de la situation. Tu sais, Craig Berube va toujours avoir la poussée avec les Blues de Saint-Louis en 2019 sous sa cravate. Je pense qu'il y a ça. Je pense que ça... Est-ce que ça va faire mal à sa réputation? Oui et non. Non dans le contexte que les Leafs de Toronto, selon moi, est un club qui est mal construit de base. Donc, quand tu perds un joueur de 100 points comme Mitch Marner, qui est un joueur excellent troué en plus, et que tu essaies de les remplacer par trois joueurs qui font 30 points, ben écoute, des fois, l'expression 4-20 c'est sous, ça fait une pièce, mais pas dans ce cas-ci.
Mm-hmm. Exact.
Donc, pour moi, les Leafs se doivent d'essayer de récupérer des atouts sur le marché des échanges. Il n'y avait pas une grande demande pour les joueurs. Ils ont pris ils ont vendu à des rabais. On l'a vu avec la transaction Bobby McMahon. Cherchaient un premier choix, ils ont vendu pour un deuxième et un quatrième. Idem pour Scott Laughton, ils cherchaient au moins un deuxième choix. Ils ont un troisième choix conditionnel des Kings de Los Angeles. Mm-hmm. Ils n'ont pas pu trouver une transaction pour Oliver Ekman-Larsson. Donc, c'est certain que là, tu peux comprendre pourquoi ce club-là écoutait
exact.
Sur Matthew Nyes.
Ah, puis tu sais, même, tu parles de Scott Laughton, là, j'entendais Friedman qui mentionnait la transaction de Scott Laughton a été envoyée à la Ligue nationale de hockey à 2h59min 30 secondes. Fait que clairement, on n'était pas satisfait du prix. On était coincé, on n'avait pas le choix de l'échanger. Mon père est fou à travers ça, considérant ce qu'on avait payé l'année précédente. Tu l'as dit, très difficile une reconstruction parce qu'on n'a pas de choix au premier tour. Mais mettons là que ça se passe mal pour les Leafs. Est-ce que les actionnaires de l'équipe sont prêts à se lancer là-dedans? Parce que moi, je donne beaucoup de crédit à Jeff Molson, Canadien de Montréal, c'est une drôle de bibitte, là. C'est l'équipe numéro un du Québec, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attention, et il n'a pas eu peur de plonger pendant quelques années pour revenir plus fort, et aujourd'hui, on est tous très contents de cette décision-là. Est-ce qu'à Toronto, dans un contexte de loge corporative, de billets très chers, de marché, parce qu'il y a une offre avec le baseball, il y a une offre avec le basket, il y a quand même un peu de compétition, est-ce qu'on serait prêt, selon toi, Marco, à se lancer dans une reconstruction complète avec l'équipe? Encore?
Non, du tout. Zéro. Le propriétaire, d'ailleurs, ben dans le fond, le président de Toronto Maple Leaf Sports Entertainment, Keith Pelley, a envoyé une lettre aux détenteurs de billets disant « Il n'y a pas de reconstruction, on va tout faire cet été pour se remettre sur la voie d'être compétitif. » Donc, c'est l'anti-lettre de New York, exemple. c'est totalement l'opposé. Donc, pour revenir dans le coup, ça va prendre des transactions. Puis ça va prendre des transactions pour leur permettre de récupérer des atouts. Donc, c'est pour ça que tu as entendu le nom de Matthew Nice dans les discussions, parce que tout le reste de leurs gros joueurs ont des clauses de non-échange complètes. Mm-hmm. Et tu ne vas pas échanger John Tavares. Il a signé un contrat à rabais pour prendre sa retraite à Toronto. Nylander et Matthews, va falloir avoir une discussion, mais si tu échanges un de ces deux-là, c'est certain que ça va prendre des années avant que tu reviennes à ce que tu étais l'année passée. Donc, c'est certain que si tu as à sell high sur un joueur, Matthew Nice a plus d'allure. Oliver Ekman-Larsson, même chose. Brandon Carlo, on verra. Mais c'est certain que ce club-là va être différent en septembre.
Tu sais, puis on regarde, mettons, là, juste de même, là, je ne sais pas c'est quoi au niveau de la masse salariale et tout ça, mais si tu regardes les agents libres, mettons, là, cet été, là, les agents libres au 1er juillet.
Il n'y en a pas.
Non, je sais qu'il y en a. Mais là, s'il y en avait, là, Marco, là, tu regardes les livres à Toronto, puis la façon que ça va, là. Toi, t'es agent libre, tu dis, moi, je m'en vais jouer là. Mm-hmm. Sérieux, là. Tu sais, c'est tout croche. Tu vois, l'organisation, c'est tout croche. Les gars donnent pas d'efforts et tout ça. Tu veux-tu te joindre à un groupe comme ça? Pas évident, là.
Non.
Tu sais, puis si tu veux lever ta clause pour une transaction, pour t'en aller à Toronto, tu vas regarder ça aussi, là. Tu vas dire, moi, tu sais, je veux jouer dans un club qui va être compétitif, un club où il y a une bonne atmosphère, où les gars travaillent, les gars ont ça à cœur. Fait que, écoute, bonne chance au livre, ça. Ça va être tough, je pense. Ouais.
Il y a du pain sur la planche pour Brad Tree Living, moi vous le dire. Là, c'est, on dirait qu'il est dans la même situation maintenant avec les Leafs qu'il était avec les Flames de Calgary en 2022.
Ouais. Mm-hmm. On dirait qu'il y a comme un dénominateur commun entre les deux situations. Là.
C'est lui.
C'est comme spécial. Je comprends que c'est pas tout de sa faute à Toronto, là, mais.
Non. C'est pas tout de sa faute.
Non, non,
mais
c'est pas tout de sa
faute. Il y a des décisions qui ont été prises. Je pense que les décisions qui ont été prises par les Leafs à la date limite des échanges de 2025, malheureusement, les ont vidés d'actifs.
Exact.
Et maintenant, ils vont en souffrir.
Ben oui, puis tu sais, je veux dire, en tout respect pour Brandon Carlo, là, Fraser Minton, il va très bien avec les Bruins, plus un premier choix, ça pourrait plus tellement mal virer. Ça pourrait très, très mal virer. OK, autre sujet que je vais aborder avec toi, Marco, la date limite des transactions est passée. Et là, on le sait, les 23 joueurs, ce n'est plus important. L'important, c'est de respecter la masse salariale. C'est la situation présentement du Canadien. Puisqu'on n'a pas échangé Patrick Laine, ben, on n'a pas nécessairement cette flexibilité-là pour rappeler des joueurs ou on est quand même capable de le faire si jamais on a besoin d'aller chercher du renfort du côté de Laval.
Ouais, donc le Canadien en ce moment a à peu près 1,5, 1,6 million sous le plafond du cap salarial, mais sont projetés à avoir juste 300 000 avant la fin de la saison. Ce que ça veut dire, tu peux ajouter des joueurs, mais tu peux pas les ajouter pour toute la saison pour le restant de la saison parce que le cap est calculé quotidiennement. Donc, exemple, en ce moment, ils ont 1,6 million de lousse. Jacob Fowler en gagne quasiment 900 000. David Reinbacher en gagne quasiment 900 000. Pour ceux qui veulent pas faire des mathématiques un matin, les deux ensemble, ça équivaut 1,8 million. Fait que tu peux pas ajouter les deux en même temps. Même si tu peux utiliser deux de tes quatre rappels, parce qu'il faut aussi savoir qu'après la date limite des transactions, tu as seulement droit à quatre rappels réguliers de la Ligue américaine.
Outre les maintenant, rappels d'urgence qui rentrent dans une catégorie spéciale, mais on comprend le point.
Pour les rappels d'urgence, il faut avoir moins de 6 défenseurs en santé ou moins de 12 attaquants en santé. Le Canadien, en ce moment, en ont 15 attaquants en santé et 7 défenseurs en santé. Donc, ça va en prendre des blessures avant les rappels d'urgence. Donc,
exact.
De base, un. Mais l'autre point que j'entends le plus, c'est, bon, ben, on pourrait-tu envoyer Patrick Laine ou Samuel Montembeault à Laval? Voici une petite chose dans la convention collective. Tu ne peux pas envoyer un joueur qui est dans ton échiquier, dans la Ligue nationale, après la date limite des transactions, à Laval. Tu ne peux pas. Donc, même si le Canadien voudrait envoyer un joueur à Laval pour épargner le 1,15 million de dollars que tu peux épargner en envoyant un joueur dans les mineurs, le Canadien ne peut plus se le permettre de le faire après la date limite des transactions. Donc, vraiment, ils ont seulement ce 1,6 million de dollars à jouer avec. Donc, tu risques d'avoir un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Et l'autre chose qu'il faut prendre en considération, oublions pas Michael Hage à la fin de la saison, parce que ça aussi, il faut le faire rentrer dans l'échiquier. C'est certain que s'il joue juste le dernier match de la saison, il comptera juste pour un 5 à 7 000 sur la masse au prorata, mais il faut que tu le rentres dans le 1,6 million globalement dans ton alignement. Donc, il y a des mathématiques qui vont se faire faire entre aujourd'hui et la fin de la saison pour essayer de faire rentrer certains jeunes, mais juste parce que je sais que plusieurs veulent voir certains de Laval se faire rappeler et envoyer certains de Montréal à Laval, c'est pas aussi facile que vous le croyez. Le Canadien doit être créatif dans ses, dans ses rappels d'ici la fin de la saison.
Mais tu sais, soyons francs, là, Kent Hughes, John Sedgwick, Jeff Gorton, ce sont tous des hommes intelligents. Ils ont tous déjà pensé à leur scénario. Ils ont tous déjà fait des calculs en fonction de « ça va-tu marcher de rentrer ça, de faire cette manœuvre-là? » Fait que moi, c'est pour ça que ça me stresse pas tant. D'un point de vue, David Reinbacher, plus tard possible dans mon cas, là, je pense pas qu'à court terme, c'est nécessairement une bonne idée de l'amener à Montréal, mais c'est des points quand même intéressants que tu soulignes, Marco, parce que ça va en prendre de la place pour Michael Hage. Lui, t'es assez convaincu là, qu'il va signer son contrat d'entrée avec le Canadien à la fin. T'es pas d'accord?
Go to the bank. C'est déjà, je pense que le contrat il est déjà drafté. Okay. Il suffit juste de sa signature.
Ouais.
Ah, c'est ce que je pense aussi qui va arriver chez le Canadien. Ah. Ça me semble logique. Et pour les gens qui se posent la question... Oui, il y aura plafond salarial en série. Ça, c'est un fait.
Oui,
sauf que c'est seulement les joueurs qui sont habillés qui comptent sur la masse salariale.
C'est ça, là. Fait que tu peux avoir une masse salariale qui dépasse si tu as 5-7 gars over, mais si les 20 gars dans le line-up, il faut que ça fitte en dedans de la masse. C'est
exact.
Ça.
Juste pour donner juste un visuel sur ceci, si le Canadien rentrait en série aujourd'hui, les 20 joueurs qu'ils ont dans leur alignement comptent même pas pour 85 millions.
Donc, 10 millions de lousse.
10 millions de moins de la masse.
Mm-hmm.
C'est le 8,7 de Patrick Laine. Tu ajoutes le 900 000 de Joe Valeno. Tu ajoutes le 1 million de Alex Texier, le à peu près 1,2 million de Jaden Struble. Tu es à peu près à 10 millions en dessous de la masse. Donc, c'est exactement où ce que. Le Canadien a beaucoup de flexibilité pour les séries, y inclut insérer le 900 000. De salaire ou 950 000 de salaire qui va être le contrat de Michael Hage.
Exact.
Qui lui va signer ou en fin mars ou début mi-avril. Excusez-moi.
Ouais. Dépendamment évidemment à quel moment Michigan se fait éliminer et ou gagne le championnat national dans la NCAA. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, comme ce sera seulement les joueurs habillés qui comptent sur la masse, ce ne sera pas le cas pour le Canadien. Mais il y a peut-être des équipes à travers la Ligue nationale de hockey qui ont deux gardiens, mettons, avec des bons salaires et qui ont un troisième gardien à 900 000. Ben, soyez pas surpris de voir le gardien numéro un devant le filet et le troisième gardien sur le banc.
Ben oui.
Très, très, très bon.
Il n'y aura pas des backups à 5 millions, là.
Je pense pas, non.
Non, c'est ça, là, exact.
Parce que c'est ça l'affaire. Et d'autres, j'irais encore plus loin. D'habitude, dans les séries, tu as toujours un troisième gardien comme un Black Ace, spécialement si ton club de la Ligue américaine n'est plus en série.
Exact.
Donc, ça va être quelque chose à surveiller. Mais en faisant mon analyse des équipes qui sont en série, il ne semble pas en avoir un qui est au-dessus du cap salarial de série en termes de projection à date. Mais Anthony, ça va être quelque chose à surveiller, cette stratégie-là, le plus qu'on avance dans cette nouvelle ère du cap salarial.
Ah ouais, moi, je suis convaincu qu'il y a des équipes qui vont se signer des gardiens à petit prix qui vont servir juste à ça.
Tu sais, comme nous autres autour de la table, là. Notre plafond salarial, là, c'est, on est 3 aujourd'hui au lieu de 4. On est-tu under?
On est under le cap. Là.
On est under le cap. On a de l'espace en masse.
Ouais.
C'est ça.
Tony Gagne, je pense qu'on utilise du LTIR en ce moment. Là,
exact. Très bon, Marco. On peut t'entendre dans tes différents podcasts sur la plateforme de la Commission athlétique. Toujours le fun de te recevoir dans le club du matin.
Salut, Marco.
Toujours un plaisir, les gars. Bon matin.
Merci. Yes, bon match ce soir contre les sénateurs d'Ottawa. Marco D'Amico. Vraiment intéressant, honnêtement. C'est sûr que c'est une chronique un peu plus... technique.
Ben
moi, c'est mon bag. Là. Moi, j'adore ça.
Parce que moi, on a parlé de ça. Je n'ai parlé de ça, je ne m'en rappelle pas cette semaine. Puis T'sais, la masse salariale dans les playoffs, moi, je pensais que c'était tous les gars sur le roster, il faut que tu fasses dedans. C'est les gars qui sont dans le line-up, les 20 gars qui sont dans le line-up.
Mais c'est pour ça que c'est intéressant.
Ben oui.
Parce que ça fait en sorte que si jamais tu as voulu aller chercher un joueur à cause de la liste des blessés à long terme, OK, parfait, pas de problème, tu peux le faire pendant la saison.
Tu peux rentrer, mais il faut t'en sortir un autre.
Mais là, pouf, tu peux plus le faire jouer en faisant série, puis tu sors quelqu'un. Puis c'est pour ça que c'est juste tout le monde se bat à armes
égales. C'est des mathématiques.
Exact. Très bon. Puis d'ailleurs, Marco, disponible sur toutes les. Ben, pas toutes les podcasts, mais quelques podcast de la Commission athlétique. Je vous invite à aller faire un tour. Il y en a d'excellents. Il y a aussi Radar qu'on fait, Oli et moi, avec Hugo qui est de l'autre côté de la vitre. Il y a le Dugout qui est commencé avec la balle. L'épingle est là avec la saison de F1 qui est commencée. Il y a toujours de la boxe avec le Punchcast. Le 11 partant avec la saison du CF Montréal et leur belle victoire en week-end passé. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur la plateforme de la Commission athlétique. Au retour, messieurs, il y avait quelques matchs hier dans la Ligue nationale de hockey. Quasiment tout le monde dans la course aux séries a gagné. C'est pas compliqué. Il va falloir que le Canadien...
À part un club!
Vous dites pas lequel?
Non!
On va vous le dire dans deux minutes.